Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi.
Dans cette affaire, il n'y a pas un sou. Il y a des conversations entre amis dont on tire des conclusions qui ne correspondent pas à la réalité. Nous démontrerons que ça ne tient pas la route une seule seconde.
Nicolas Sarkozy au tribunal. Pour la première fois, l'ex-président est poursuivi pour corruption dans ce qu'on a appelé l'affaire Bismuth, des écoutes téléphoniques qui montreraient une tentative de corruption sur un magistrat de la Cour de cassation. Invité d'Europe Midi, le grand reporter du Monde, Gérard Davet, qui a le premier révélé cette histoire il y a 6 ans. Autre procès à Rennes, celui de 7 militaires pour la noyade d'un élève officier de Saint-Cyr en 2012. Le Covid, à la veille de l'intervention d'Emmanuel Macron en vue d'un assouplissement du confinement, la décrue se poursuit, les vaccins arrivent, la France met au point sa stratégie vaccinale. 2000 suppressions de postes chez Danone, dont 4 à 500 en France. Depuis le début de la crise, les destructions d'emplois touchent surtout les zones rurales et touristiques, les métropoles s'en sortent mieux, sauf l'île de France. Aux États-Unis, la bataille présidentielle continue. Donald Trump pourrait parvenir à faire rejeter les résultats du Michigan. Et puis le tennis, après le sacre de Medvedev au Masters, bilan de la saison de tennis masculin.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un ancien président de la République jugé pour corruption, c'est donc un procès sans précédent qui s'ouvre dans une heure devant le tribunal correctionnel de Paris. Les 3 prévenus, Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et le haut magistrat Gilbert Azibert, encourent 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Pièce centrale de l'accusation, des écoutes téléphoniques sur 2 téléphones clandestins achetés au nom de Paul Bismuth, où Nicolas Sarkozy et son avocat envisagent de donner un coup de pouce au magistrat Azibert pour un poste à Monaco en échange d'informations sur une procédure à la Cour de cassation. Mais pour la défense, il n'y a pas de corruption, il n'y a que des conversations entre amis. Maître Paul-Albert Ivens, l'avocat Thierry Herzog.
Tout repose dans ce dossier sur des bribes et des extraits de conversations entre un avocat et son client qui sont montés en épingle ou mis abusivement en relation pour venir à l'appui d'une thèse qui ne résiste pas à l'examen. Ce qui est grave, c'est que ce sont des conversations entre un avocat et son client. Et donc, il y a un véritable problème de secret professionnel, du secret des avocats. Et dans cette affaire, on a écouté tout le monde, on a interrogé tout le monde. Nous démontrerons que ça ne tient pas la route une seule seconde. Quand on entend corruption, on entend parler de trafic, d'argent. Dans cette affaire, il n'y a pas un sou. Il y a des conversations entre amis dont on tire des conclusions qui ne correspondent pas à la réalité. Parce que je pense que la personnalité de Nicolas Sarkozy attire les juges et que, pour certains également, le fait de pouvoir mettre en cause un avocat réputé, ça fait partie de la chasse.
Propos recueillis par Chloé Triomphe. Chloé, pourtant, les juges ont estimé qu'il y avait bien matière à poursuite et à procès.
Oui, parce que le droit est implacable en matière de corruption. Les textes stipulent en effet qu'il n'est pas nécessaire pour que l'infraction soit consommée, que la sollicitation trouve preneur ou, s'il y a bien eu un pacte, que les choses promises aient été livrées. Les magistrats instructeurs ont donc pu renvoyer l'ancien président, son avocat et le magistrat pour corruption et trafic d'influence en s'appuyant sur une 12aine de conversations de la ligne Bismuth où Nicolas Sarkozy et son avocat discutent librement des renseignements que le magistrat Gilbert Azibert pourrait leur fournir sur la décision à venir de la Cour de cassation concernant la restitution des agendas du chef de l'État, agenda saisi dans l'affaire Bettencourt. On peut y entendre aussi la demande de Thierry Herzog à Nicolas Sarkozy de recommander Gilbert Azibert pour l'obtention d'un poste à Monaco en échange du service rendu. Et puis, dernier élément important pour les juges, le déplacement de Nicolas Sarkozy en principauté, en fait une semaine de vacances, qui crédibiliserait la théorie du pacte. Alors, on le sait depuis, les renseignements fournis par Azibert se sont avérés faux. Ce dernier n'a pas eu le poste à Monaco et Nicolas Sarkozy parle d'un vague service qu'il a finalement refusé de rendre. Ce sera donc au tribunal d'étayer le lien de causalité. Nicolas Sarkozy dément formellement et espère obtenir une relaxe.
Chloé Triomphe, le procès doit s'ouvrir à 13h30 et durer jusqu'au 10 décembre, mais il pourrait être renvoyé à la demande de Gilbert Azibert pour raison médicale. On va y revenir avec le journaliste du Monde, Gérard Davet, invité d'Europe Midi dans une 10aine de minutes. Autre procès qui s'est ouvert ce matin devant le tribunal de Rennes. 7 militaires poursuivis pour la mort du sous-lieutenant Jalal Hamy lors d'une soirée d'intégration, de bahutage, comme on dit, à l'école de Saint-Cyr-Coëtquidan en octobre 2012. Le jeune homme de 24 ans s'était noyé en traversant un étang à la nage, en uniforme, dans une eau à 9 degrés. François Coulon.
Oui, un exercice en pleine nuit, strictement interdit par le règlement. En fait, une nage commando sur une cinquantaine de mètres dans un étang profond de près de 3 mètres. Les élèves officiers de seconde année qui avaient préparé l'opération n'avaient installé que le strict minimum, deux cordes et deux bouées. Il aurait fallu au moins un homme dans l'eau en combinaison pour suivre chaque militaire et une embarcation pour évacuer des élèves en cas de malaise, explique à la barre l'adjudant-chef Chevassu, spécialiste du franchissement. Après, on sait bien que la transmission des traditions est synonyme de transgression, c'est un peu le but, poursuit le sous-officier. La suite est la chronique d'un drame annoncé. Des élèves nombreux qui se jettent à l'eau, tous en même temps, boivent la tasse, paniquent, s'agrippent les uns aux autres, dans un embouteillage mortifère. Le corps de Jalal Hari, 24 ans, sera retrouvé sans vie 2 heures plus tard par les pompiers, son frère Rachid.
On ne peut pas dire qu'ils étaient inconscients du danger. Il y a eu un premier passage où ils ont cherché des jeunes hommes dans l'eau qui ont failli se noyer, qui ont failli mourir. Et après, ils se sont arrêtés pour en parler. Et malgré cette conscience du risque, ils ont décidé d'envoyer ce deuxième passage à l'eau.
Voilà, le procès doit durer toute la semaine. Les 7 prévenus en cours jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
François Coulon à Rennes pour Europe 1. La crise sanitaire, la décrue se poursuit d'après les derniers chiffres de Santé publique France. 215 décès dimanche, 61 de moins que la veille. Un taux de positivité des tests tombé à 14% et un nombre d'hospitalisations stabilisé, mais à un niveau très haut, plus de 31 000, dont 4 500 en réanimation. Ce matin, nouvelle annonce d'un grand laboratoire. Le britannique AstraZeneca affirme avoir développé un vaccin efficace à 70% en moyenne, voire 90% dans certains cas. C'est un produit élaboré, celui-là, non pas à base d'ARN messager comme Pfizer et Moderna, mais sur la base d'une technique classique qui ne nécessite pas de conservation à basse température. Un troisième vaccin, en tout cas, qui conforte les espoirs de vaccination massive pour les mois à venir. Victor Delande, que sait-on de la stratégie de la France dans ce domaine ?
Alors, le gouvernement semble vouloir agir vite pour éviter un nouveau quoi qu'après celui des masques en mars et des tests en septembre, la France a d'ores et déjà précommandé 90 millions de doses. Il faut d'abord que les autorités de santé délivrent des autorisations de commercialisation pour ces vaccins. L'Agence européenne du médicament annonce d'ailleurs qu'elle pourrait donner son feu vert avant la fin de l'année. Les premières personnes vaccinées le sauraient donc dans la foulée. Quelles personnes recevront les injections en priorité ? Là-dessus, il semble y avoir un consensus dans les pays développés. D'abord, les professionnels de santé qui sont en contact direct avec les malades et les personnes les plus à risque de faire une forme grave de la maladie, c'est-à-dire les personnes âgées ou celles ayant des comorbidités. Ça représente déjà près de 30 millions de personnes en France. C'est en fait assez proche du public prioritaire à qui on recommande la vaccination saisonnière contre la grippe. La Haute Autorité de Santé doit rendre dans quelques jours un avis définitif sur ce public prioritaire. Autre avis de la HAS attendu vers la mi-décembre, cette fois sur l'organisation logistique de la campagne de vaccination. Avec déjà une certitude, la France a appris de ses erreurs. Oubliez donc les vaccinodromes, ces immenses barnums qui ont fait un flop en 2009 lors de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1. Cette fois-ci, l'idée serait de se reposer davantage sur les médecins généralistes, les infirmiers et les pharmaciens.
Victor Delande, en attendant le vaccin, l'économie continue de souffrir. Danone, le géant français de l'agroalimentaire, annonce ce matin vouloir supprimer jusqu'à 2000 postes administratifs au niveau mondial, dont 4 à 500 personnes en France. Élise Dangean.
Oui, en fait, Danone veut simplifier son organisation et revenir à un fonctionnement plus local. C'est pour ça que les suppressions annoncées concerneront les sièges du groupe à travers le monde et qu'elles viseront essentiellement les directeurs et managers. Des équipes refondées autour d'un objectif, renouer avec la croissance, augmenter la rentabilité, car il faut dire que le groupe a été malmené par la pandémie de Covid-19. Sur les 9 premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires a reculé de plus de 5%, moins 20% pour les ventes d'eau en bouteille à cause de la fermeture des bars et restaurants. Le groupe veut donc économiser 1 milliard d'euros d'ici à 2023. Le mois dernier, il avait déjà annoncé une révision de son offre commerciale pour se recentrer sur les produits les plus demandés. Le groupe espère également réduire les coûts de production en accélérant la robotisation de ses usines. Une course à la rentabilité dénoncée par la CGT qui doit servir à redonner confiance aux actionnaires.
Élise Dangean, le choc économique créé par la crise sanitaire n'a pas touché les territoires de façon égale. C'est ce que montre une étude du cabinet Arthur Lloyd, spécialisé dans l'immobilier d'entreprise. Olivier Samin, la carte des destructions d'emplois au premier semestre fait clairement apparaître deux France différentes.
Oui, si tous les départements sans exception ont perdu des emplois au premier semestre, il y a clairement ceux qui ont limité la casse et ceux qui ont pris le choc de plein fouet. Ceux qui ont limité la casse, pas de surprise, les départements qui bénéficient de l'attractivité d'une grande métropole, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Lille. La diversité de leur tissu économique a permis d'atténuer le choc. À l'opposé, on trouve tous ces départements dans le centre, le Grand Est, une partie du bassin parisien, souvent à dominante rurale, où les destructions d'emplois ont été très fortes. On trouve aussi des départements qu'on pensait mieux armés, mais qui ont le malheur, entre guillemets, d'avoir un secteur touristique très développé, les Alpes-Maritimes par exemple. Or, le tourisme a été très durement impacté lors du premier confinement. Dans cette carte de France, il y a une exception surprenante, l'Île-de-France. On pensait que son dynamisme la mettrait à l'abri, ben non. La région capitale concentre plus d'un quart des destructions d'emplois enregistrées dans toute la France. L'explication ? C'est sa très forte exposition à des métiers qui ont énormément souffert avec le confinement, le tourisme, l'événementiel, la culture et le coup d'arrêt des activités aéroportuaires.
Olivier Samin, les hybrides rechargeables polluent bien plus que ce que disent les constructeurs automobiles. C'est une ONG, Transport et Environnement, qui épingle les mesures officiellement annoncées, un rapport qui a été rendu public ce matin et que dont Virginie Salmen nous reparlera tout à l'heure dans le journal de 13h de Christophe Lamarre. Europe 1, il est midi 41. Aux États-Unis, Joe Biden prépare son arrivée et Donald Trump se prépare à ne pas partir. D'un côté, le président élu doit dévoiler demain une partie de son gouvernement. Son futur secrétaire d'État devrait être le diplomate Anthony Blinken, qui a travaillé longtemps avec Barack Obama. De l'autre, le président sortant, Trump, poursuit ses multiples recours en justice, tous rejetés, mais il pourrait obtenir par la voie politique le rejet ou le report des résultats électoraux du Michigan. Ça se joue aujourd'hui, Théo Manval. Trump et les Républicains n'ont pas renoncé à une victoire sur tapis vert.
En effet, parce que ces résultats doivent être certifiés ce soir par le bureau électoral du Michigan, composé de deux élus démocrates et deux élus républicains. Normalement, c'est une formalité, puisque tous les comtés qui composent l'État ont eux-mêmes certifié leurs résultats. C'est le dernier coup de tampon, si vous voulez. Mais au moins, l'un des deux élus républicains va refuser de s'y plier. C'est du jamais vu, ce n'est même pas prévu par la loi. Et si son collègue le suit, on sera dans un blocage juridique. Alors, attaquable, certes, devant la Cour suprême, mais qui offrira, au moins pour un temps, une victoire symbolique à Donald Trump. Et qu'espère-t-il ensuite ? Eh bien, aller jusqu'à obliger l'État du Michigan à trancher lui-même ce différend, à choisir ses propres grands électeurs, contournant ceux choisis par le vote populaire. Ce qui scandalise jusque dans son propre camp. Écoutez Frédéric Upton, élu républicain du Michigan au Congrès, sur la chaîne américaine CNN.
Les électeurs se sont exprimés, hein. Personne n'a apporté la preuve de la moindre fraude. Personne n'a trouvé de camion avec des sacs de bulletins dans le coffre. Tous les comtés ont certifié leurs résultats. Maintenant, ça dépasse les limites. Valider ces résultats et laisser les électeurs décider, pas les politiciens.
Et vous le disiez, au total, sur les 33 recours engagés par l'équipe Trump, 31 ont été abandonnés ou rejetés par la justice. Dernière en date hier en Pennsylvanie, où le juge a étrillé les avocats du président, venus, dit-il, sans aucun argument valable.
Théo Manval, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, se serait rendu en secret hier en Arabie Saoudite pour y rencontrer le prince héritier, MBS. Information donnée par plusieurs médias israéliens. Netanyahou aussi aurait aussi rencontré le secrétaire d'État américain, toujours secrétaire d'État, Mike Pompeo. Tennis avec le sacre du russe Medvedev en finale du Masters hier soir à Londres. Victoire en trois manches sur l'Autrichien Dominic Thiem. La saison de tennis masculin qui s'achève a fait quelque peu bouger la hiérarchie, Corinne Boudou.
Oui, puisqu'une nouvelle fois, pas de Djokovic ni de Nadal en finale du tournoi des maîtres, mais un Daniil Medvedev qui termine sa saison sur une impressionnante série victorieuse à Londres. Il est venu à bout des trois meilleurs mondiaux, Novak Djokovic, Rafael Nadal, puis en finale hier, Dominic Thiem, vous l'avez dit, dans la foulée de sa victoire à Bercy. 15 jours plus tôt, Medvedev, finaliste de l'US Open 2019, conforte ainsi sa quatrième place mondiale à 24 ans. L'Autrichien Dominic Thiem, vainqueur de son premier tournoi du Grand Chelem dans le huis clos de Flushing Meadows, pointe au troisième rang mondial. Et ces deux-là, avec le grec Stefanos Tsitsipas, 22 ans, demi-finaliste à Roland-Garros, sixième mondial aujourd'hui, derrière le grand absent de la reprise post-confinement Roger Federer, se positionne comme de sérieux challenger face au Big Three. Mais c'est une nouvelle fois le Serbe Djokovic, victorieux en Australie, mais défait à Roland-Garros par Raphaël Nadal, qui termine cette saison si particulière en numéro 1 mondial. Côté français, Gaël Monfils, 11e mondial, reste le numéro 1 tricolore, devant Benoît Paire et Hugo Humbert. Le jeune Hugo Gaston, la coqueluche du dernier Roland-Garros, commencera la saison prochaine au 161e rang mondial.
Merci à vous Corinne Boulot. Et dans le Vendée Globe, deux Français sont maintenant au coude à coude, en tête, Thomas Ruyan et Charlie Dalin. Jean Le Cam, ça rejoint la troisième place au détriment du Gallois Alex Thompson, contraint à des réparations. Ils sont où à peu près les bateaux de tête là?
Ils sont désormais dans l'hémisphère sud, bien au large du Brésil.
Ah bah très bien, merci Corinne Boulou. Le temps, Anissa Haddadi, bien différent entre le nord et le sud cet après-midi.
Oui, une météo assez simple Patrick, puisqu'au nord de la Loire, le ciel reste gris toute la journée. Sur les Hauts-de-France et la Bretagne, quelques petites éclaircies, mais alors partout ailleurs, c'est très gris. Au sud de la Loire, le ciel est complètement dégagé, le soleil brille. C'est presque l'été au sud de la Loire, sauf côté température, il fait frais. 5 à Lons-le-Saunier, 6 à Strasbourg, 7 à Lyon, 11 à Lille, 12 à Paris, 15 à Nice et 17 à Bastia pour la maximale.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, le journaliste du Monde, Gérard Davet, à propos du premier procès Sarkozy.